vieux pas.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes sur Radio Campus 106,6 FM et DAB+, ou sur notre site internet. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes quatre. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
De Pierre-Yves.
Salut à tous.
Et de Dominique.
Bonsoir à toutes.
Aujourd'hui, un sommaire qui sera rempli d'actualités musicales et aussi de petites informations diverses et variées sur l'univers geek et ludique. Je vous propose tout de suite, et comme d'habitude, de commencer par l'agenda. Alors, plusieurs choses et malheureusement beaucoup d'annulations. On en avait parlé lors des dernières émissions. On pensait que Paris Ludique allait maintenir son événement qui se déroule habituellement majoritairement à l'extérieur.
Totalement à l'extérieur en fait.
Effectivement, il y a des tentes.
Hein. Oui, il n'y a rien à l'extérieur, il n'y a rien à l'intérieur.
Vu que tout est en plein air, on s'est dit, et eux-mêmes se sont dit, tiens, on va maintenir l'événement.
Ça doit être possible, effectivement.
Mais aux dernières nouvelles, Paris Ludique lance officiellement son annulation pour cette édition de 2021.
On y croyait histoire de les soutenir, mais bon.
Après, étant donné que les gens vont toucher plein de pièces de jeu et autres, j'ai du mal à voir comment, à part nettoyer entre deux parties, j'avais du mal à voir comment tu peux éviter des
transitions. Tu viens avec ton ordinateur et puis on joue tous connectés sur BGR, les uns à côté des autres.
Il y avait un salon où on avait été entre les deux confinements, sur un salon de jeux de figurines, où chaque table avait son kit de nettoyage, son gel hydroalcoolique, et les organisateurs qui passaient disaient à chaque personne, quand une personne arrive à votre table, doit avoir le masque, ne mange pas et ne boit pas, et aussi utilise le gel hydroalcoolique avant quoi que ce soit. Et ça tournait, et il n'y avait aucun souci.
Ouais. Il y avait beaucoup de jeux de figurines, il faut dire. Et pour les jeux de figurines, les jeux de stratégie, etc., tu touches que tes figurines à toi, tu touches que ta moitié de table à toi, et même les dés, tu lances tes dés à toi, tu lances pas les dés, et puis chacun a son livre de règles, et voilà, tu y touches pas les pièces de l'adversaire normalement.
Et puis les parties sont peut-être plus longues aussi, alors qu'au flip, comme il y a quand même des petits jeux.
Ouais, les jeux pour enfants, les jeux où tu manipules les pièces, un jeu de plateau avec des dés. Imaginez de donner le même nombre de dés à chaque joueur. Parfois, ça serait se résumer qu'à des jeux où tu as ton propre pion. Enfin, ça dit, il y a tellement de jeux qui sortent, ça va être un peu difficile de faire le tri.
Alors, pourquoi c'est annulé? Non pas parce que ça va être impossible, mais comme on l'avait cité avec Ludinor, il y a tellement d'engagements qui sont faits.
Tellement d'incertitudes, au niveau des partenaires, c'est très très chaud de leur promettre quelque chose.
Et les
partenaires, ils mettent de l'argent, donc c'est un peu, c'est un risque pour eux, quoi.
Ludinor l'avait cité, les fonds s'engagent à 70% quelques mois avant le festival, et là on est à 2 mois avant le festival, et il y a trop d'incertitudes, du coup, ils préfèrent annuler pour pouvoir pérenniser l'événement l'année prochaine.
Ouais, alors ça, faudra le dire vite, parce que ça fait une paire d'années que Paris Ludique, ils sont jamais sûrs de revenir l'année d'après. Donc là, ça va faire 2 années de suite, pratiquement, ça va être dur.
Voilà, on espère les retrouver sur la pelouse de Ruy, quand même, en 2022. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et notamment dans l'univers musical, beaucoup de personnes qui avaient des concerts, qui pensaient les faire durant l'été 2021.
Concerts en plein air, oui, pourquoi pas.
Et bon, ça, tout se redécale en 2022. Alors, bien sûr, vos billets sont toujours valables pour l'année prochaine. Alors, cette fois-ci, on va pas parler d'événements. On va partir dans l'univers du jeu vidéo. Après la vente de Bethesda, qui a été rachetée par Microsoft, c'est un autre pilier du jeu vidéo, c'est Square Enix.
En fait, il y a eu des personnes qui seraient dans des confidences de gros échanges de flux d'argent, on va dire ça comme ça, qui ont balancé le fait que Square Enix a été approché pour une tentative de rachat. Bien sûr, cette société a nié en bloc. Alors
ce qui renforce la validité de la rumeur.
Et qui dit rumeur dit après extrapolation de toutes les données et imaginer qui peut acheter qui et pourquoi. Et là, c'est parti, c'est la foire à la saucisse, quoi.
Ouais, faut dire que Square Enix, alors je sais pas depuis combien de temps ils sont cotés, mais bon, ça, faut dire, c'est une grosse boîte, quoi. On va citer que Final Fantasy ou Tomb Raider, par exemple, mais c'est déjà énorme.
Just Cause et compagnie, ouais.
Ils sont cotés à environ 7,8 milliards de dollars, ce qui est pas mal. Donc, on a déjà des rachats aux alentours des 10 milliards de dollars du côté de Microsoft, ça, par exemple, mais c'est pas impossible. Non.
J'ai l'impression que Microsoft, au lieu de s'embêter à racheter les licences de certains jeux, rachète carrément la société. Au moins,
c'est plus simple, ça prend moins de temps.
Ça arrange tous les gens qui ont pris le Game Pass de Microsoft.
Puis surtout, t'as des jeux comme Square Enix qui se focalisent sur, par exemple, Nintendo et Sony. Et là, Microsoft pourrait dire, tu m'appartiens, maintenant, les jeux que tu crées, c'est d'abord une exclusivité total ou temporaire chez moi.
Tu dois jouer à Final Fantasy sur une Xbox.
Voilà. C'est Final Fantasy, c'est un peu comme GTA quand il était sorti sur console et après uniquement sur PC. Les joueurs de GTA avaient bien ragé, donc imagine les joueurs de Final Fantasy pour dire « Attends, je vais pas aller sur Xbox pendant 6 mois pour après avoir mon jeu sur PlayStation. » C'est la méthode, faut acheter la société maintenant.
On sent que Microsoft avec son Xbox Game Pass veut absolument avoir un peu cette notoriété qu'a Netflix dans l'univers du film et de la série. C'est pour ça qu'il il crache un peu d'argent de droite à gauche.
Il se place chez les gens, un peu comme Amazon l'a fait à son époque. Il se place partout, quitte à perdre de l'argent. C'est Microsoft, je m'inquiète pas trop pour eux, quoi. Mais les gens, pour qu'il y ait le maximum de petites icônes Xbox Game Pass sur les bureaux des gens.
Voilà, apparemment Square Enix aurait reçu donc quelques offres, et alors peut-être aussi du Sony ou du Nintendo. Alors c'est vrai qu'on aurait tendance à croire que Nintendo serait plus approprié à racheter Square Enix, puisque beaucoup de titres sont déportés sur les plateformes Nintendo, mine de rien.
Oui, ça dépend d'où viennent les joueurs. C'est vrai que moi, j'ai tendance à plutôt penser, quand je pense Square Enix, c'est tout l'univers Final Fantasy, donc c'est plutôt lié au PlayStation en général, donc Sony. Oui. Mais
je le vois aussi effectivement plus du côté Sony.
Moi, j'aurais dit la NES, tu vois, puisque les premiers Final Fantasy, on y jouait quand même sur la NES.
Sur Game Boy.
Et après, c'est vrai que c'est parti chez Sony. Donc, on restera au courant de cette tentative de rachat. Vu qu'on parle de grandes plateformes de jeux vidéo, il y a également Amazon qui essaye également d'avoir son petit studio de jeux vidéo. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Amazon a racheté la licence du Seigneur des Anneaux et qu'il se prépare à en faire une nouvelle série. Alors c'est d'ailleurs ce qui, pour eux, va être un des points forts de leur développement au niveau de la plateforme Amazon Prime, qui a quand même du mal à décoller. Pour les utilisateurs, c'est pas gênant, puisque à la base, je pense que la majorité voulait juste un compte Prime pour avoir des livraisons gratuites et ils se retrouvent avec des vidéos en plus, donc pour l'instant, ça ne les dérange pas. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui, à l'heure actuelle, prennent Amazon Prime pour les vidéos ? Je pense qu'on est quand même sur un ratio assez faible, qui risque de changer, bien sûr, avec cette nouvelle série, Le Seigneur des Anneaux.
Si elle se fait.
Alors oui, parce que la première chose, c'est que en plus de ça, ils se sont dit, tiens, on va faire également un jeu vidéo. Ils s'associent à Leiyu Technology et commencent à développer le jeu. Sauf qu'on vient d'apprendre, selon nos dernières informations, que le jeu est annulé. On partait ici sur un MMORPG, donc c'est vrai que construire un MMORPG durable, ça prend quand même du temps, de l'investissement.
Il faut avoir les épaules solides, bon Amazon ça va quoi, ils ont du monde. Ils ont les moyens, ils ont les serveurs, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même déjà un MMO Seigneur des Anneaux qui est sorti il y a très longtemps et qui marche toujours, qui tourne toujours d'ailleurs. Qui était pas si mal.
C'est vraiment annulé ou bien est-ce qu'ils vont rechercher finalement une autre entreprise pour remplacer Leiyu ?
Alors c'est annulé.
Alors, c'est en tout cas ce développement-ci est
annulé. La licence. Voilà.
Alors, les raisons officielles sont qu'ils ne sont pas parvenus à sécuriser les termes du contrat.
Ça, c'est encore du. Voilà, c'est comme le langage. Oui.
Du juridique.
C'est ça.
Ils ne sont pas mis d'accord sur la somme en bas à droite.
Ça commence à devenir inquiétant pour Amazon au niveau développement, parce que c'est pas le premier. Ça fait plusieurs années, je crois, depuis 2012 à peu près, qu'ils se sont lancés dans l'idée de faire des jeux vidéo. Il y a déjà deux jeux qui sont sortis et qui sont repartis, sont partis directement à la poubelle parce que les gens, c'était pas fini, quoi. C'était pourri. Je sais même plus les noms de tes jeux, c'est-à-dire.
Alors, on peut parler de Crucible.
Ou pas.
Qui cinq mois après, donc, sa première release, alors ce qu'on appelle des alpha ou des bêta, a complètement déçu les joueurs et ils ont préféré arrêter avant la sortie du jeu. Crucible, c'était une sorte de FPS, un peu un MMO.
Ouais, un mélange de...
un peu pour contrer, allez, on va citer Fortnite Overwatch.
Et ouais, voilà, Fortnite et tout ce genre de jeu, quoi. Il était gratuit, je crois, si je dis pas de bêtises, en plus. Amazon l'offrait. Alors, je sais plus, il y avait un modèle économique intéressant, parce qu'effectivement, tu n'avais pas besoin d'acheter le jeu, je crois. Pas des rumeurs comme qu'ils allaient sortir leur propre console?
Oui, chez Amazon, on voit grand, mais on n'arrive pas à aller très loin.
Mais après, c'est quand même là où on voit qu'on a beau avoir de l'argent, des licences, à passer des accords, enfin bon, là, qui n'ont pas abouti. Devenir comme ça un éditeur de jeux, c'est pas donné à tout le monde, faut de l'expérience.
On devrait peut-être essayer de faire comme Microsoft et essayer de trouver des studios qui développent des jeux et des petits studios innovants qui commencent à monter, puis les acheter éventuellement. Après, faut voir si les studios ont envie de se vendre corps et âme à Amazon.
Je pense que ça ne marchera pas, puisque sur des grandes sociétés comme ça, on a quand même des lignes directrices qui sont incompatibles avec la création des petits jeux indépendants.
Microsoft, ils ont un long passé de développeurs en interne, où ils ont fait des très 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 bons jeux. Ils vont pas s'improviser développeurs de jeux en allant... Quand ils vont chercher, fouiller dans les petits studios, etc., essayer de trouver des jeux intelligents, ils savent de quoi ils parlent, donc c'est pas comme Amazon. Amazon va regarder que le bilan comptable à la limite.
Si on suit le dicton, on apprend de ses erreurs. Amazon risque d'apprendre beaucoup, et peut-être de dépasser certains éditeurs. On verra. Je vous propose d'écouter un peu de musique. Alors, on a une pile de CD à dépiler aujourd'hui. Est-ce que vous voulez commencer tout de suite par un petit apéro soupe ?
Allez, on est parti.
C'est l'heure.
Il y a des groupes qui se réinventent et qui apportent, lors de leurs nouveaux albums, une originalité.
Là, ça réduit beaucoup la fenêtre, ça.
Une vision innovante de la musique. Et il y a les autres, tels que Offspring, qui sortent des albums. Comment dire ?
C'est quoi le groupe la semaine dernière où j'avais l'impression d'avoir déjà entendu 20 fois ?
Cheap Trick.
Ah oui, exact.
Oui, mais au moins, on les avait oubliés, Cheap Trick. Et ils sont venus. Ah, ils existent encore.
C'est tellement semblable que t'as l'impression qu'ils ont passé certaines fois la musique à l'envers pour se dire, tiens, ça va peut-être refaire une nouvelle chanson. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas.
Pour te dire à quel point ils sont tellement vieux, les cas de Offspring, il y en a même dans le groupe qui sont vaccinés. Et là, quand t'as un groupe de rock et qu'il y a des mecs qui disent qu'ils sont vaccinés, tu dis, oula, il y a un problème.
Tu dis ça pour Mick Jagger de la semaine dernière, peut-être aussi.
Oui, mais il a l'âge, lui. De toute façon, pour qu'un virus tue Mick Jagger, faut y aller. Hein.
C'est clair, c'est un médicament à lui tout seul. Hein.
Alors, le nouvel album s'appelle Let the Bad Time Roll. Alors, on va s'écouter This Is Not Utopia, qui est la première piste du CD, puisque j'ai pas le courage d'appuyer sur Next. Like a shot with sitting weak, 'cause there's just no mistaking. Oh!
bien, c'est qu'on l'a reconnu tout de suite.
Oh, bah oui, ah oui, ça, tu peux pas te tromper.
Après, enfin, quand j'entends ça, j'ai l'impression de revenir au moins 20 ans en arrière, voire plus. Puis non, je me dis, ah ouais, ça me rappelle les bons souvenirs.
En fait, non, c'est 30 ans.
Ouais, d'accord.
C'était The Offspring avec This Is Not Utopia, extrait de leur dernier album Let the Bad Time Roll. Alors, est-ce que les Bad Times ont bien roulé là?
Je t'avouerai qu'à part me donner envie de me refaire un petit Crazy Taxi, je vois pas trop l'intérêt.
Après, ils ont besoin de vivre aussi, ces gens. Rendez-vous compte.
Pas besoin de vivre, ils ont assez de payer des impôts. Peut-être.
Allez, on va enchaîner avec quelques news toujours liées à l'actualité. On avait parlé la semaine dernière du virus Info. Alors, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des concurrents? Mais en tout cas, un autre magazine qui est assez réputé dans l'univers du jeu, ici c'est surtout jeux vidéo, c'est Canard PC, alors qui lance un appel sur Ulule afin de récolter des dons et de proposer un site flambant neuf et une nouvelle formule papier.
Et la chaîne Twitch.
Et un mug.
Un mug et une tasse. Alors,
je pense qu'à la base...
Une augmentation de prix peut-être, non? Mais Virus Informatique, depuis 30 ans, je sais pas combien, ils sont toujours à 2 euros le numéro.
C'est vrai que le canard, ça permet de découvrir plusieurs jeux, et puis t'as aussi pour les fans de hardware.
Même de temps en temps, ils parlent de jeux de société. Mais il y a juste ici, c'est que en cherchant tout à l'heure mon Virus Informatique, je ne l'ai pas trouvé, puis je vois le nouveau Canard PC là. Je dis, ah tiens, il parlait d'un jeu qui m'intéresse, Valheim en plus. J'ai feuilleté un peu le Canard PC, le problème c'est, j'ai dit, attends, c'est le numéro d'il y a un an ou quoi? Parce qu'il parlait que de jeux que j'avais déjà finis. Dans le matos, il y a des trucs qui étaient déjà dépassés. Plus je tournais les pages, plus j'avais l'impression de lire un vieux numéro, quoi. Donc il y a un problème de...
Ça vérifie la date quand même.
Ouais. Je pense que je vais aller chercher mes news de jeux vidéo et de matériel sur Internet plutôt que dans le Canard PC, je crois.
Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut que tu participes, justement, comme ça ils font leur évolution, il faut en profiter.
Alors, est-ce qu'ils ont décidé d'abord de faire un mug et ensuite, vu le succès du financement, de rajouter un site, une formule papier et une émission Twitch? Est-ce qu'on a besoin de financement pour faire une chaîne Twitch?
Non.
On demande 80 000 euros, donc ça a déjà été financé. Il reste quand même... Allez, un bon 25 jours pour participer. Alors, vous pouvez aller sur Ulule et taper Canard PC. La news s'appelle Canard PC fait sa révolution. Alors, ils sont déjà à plus de 220% d'objectifs remplis.
Il y a une base de fans quand même, mais ça fait longtemps que j'ai laissé tomber, moi.
Bon, c'est pas le pire des magazines non plus. Hein,
non, mais le problème, c'est que tu payes 6,50€ en un, puis tu l'as lu en 5 minutes. Quoi.
J'avoue, parce que moi, ouais, j'étais obligé de laisser tomber. C'était Dom qui me passait ses numéros, donc comme il a...
Je l'ai juste feuilleté, parce que la seule rubrique qui m'intéressait encore, c'était... Il trouvait des petits matériels, des petits gadgets de geek sympas et tout, mais bon, ça, tu les trouves partout sur Internet. Mais il y avait une rubrique sur les jeux online de deux pages qui était intéressante, où il y avait une news, des MMO, et, qui était bien, bien écrite, qui était sympa. Mais bon.
Moi, je regardais que les images. Je me disais, ah, ce jeu est peut-être intéressant, donc je regardais vite fait la note et le résumé du commentaire. Mais du coup, ça fait cher.
Bon, si vous voulez un mec.
Allez, un autre événement. On a parlé récemment de l'E3. Qui va avoir lieu de façon digitale. Et ici, c'est l'Ubisoft Forward qui va faire un événement en 2021 et apparemment, ça sera également du 100% virtuel. Tout va se passer le 12 juin à 21h. Cet événement vous proposera notamment de parcourir les actualités d'Ubisoft. Alors, les connaissant, il risque d'avoir un nouvel Assassin's Creed, un nouveau Far Cry, un nouveau Rainbow Six. Enfin, c'est...
Pour le Far Cry peut-être, mais pas pour l'Assassin's Creed. Ils pensaient faire une extension ou je ne sais quoi, mais qui est, pour les deux sont retardés.
Qu'est-ce que tu entends par nouveau?
Je pense...
C'est comme l'album de
Offspring.
Voilà.
Je pense que c'est Ubisoft qui a mis des sous dans le nouvel album d'Offspring et qui a forcément donné quelques directives. Il faut surtout faire un truc qui ressemble à l'autre.
Qui plaise au public, qui va se faire acheter. Voilà.
Ben, les grandes maisons d'édition ont du mal à se renouveler, c'est pas la même chose.
Il y a des franchises qu'on retrouve, effectivement. Chaque année, tu as le nouvel épisode. On peut prendre aussi tout ce qui est jeux de sport, hein, où chaque année, on a le droit au nouveau NBA, FIFA et compagnie, PES.
C'est comme les films de Star Wars. Tu regardes la bande-annonce, tu dis, bah voilà, hop, c'est fait, au suivant.
Après, enfin, les enjeux financiers sont tellement importants que puis, les éditeurs préfèrent ressortir une même chose, ressucer tout le temps les mêmes, tout ce qui fonctionne bien, les techniques qui fonctionnent bien. Ils savent que c'est l'argent qui va rentrer, plutôt que prendre des risques à développer quelque chose de nouveau sans avoir la certitude d'avoir un retour sur investissement. C'est triste, hein, mais bon.
Après, ils ont tellement habitué leurs clients à acheter ça que les joueurs qui leur demandent quand est-ce qu'ils sortent le nouveau produit. C'est peut-être ça ce qui est le plus dommage.
C'est un peu comme, je peux dire une drogue, mais bon, c'est chaque année, on veut avoir la nouveauté, le nouveau truc qui fait...
Ah oui, c'est un doudou, t'es content, tu t'installes dans ton fauteuil qui est bien confortable, tu sais que voilà, tu vois pas un truc qui va te piquer les fesses ou je ne sais quoi, t'es bien installé dans ton petit Assassin's Creed ou ton Far Cry et t'en bouges pas.
Je vois que ça vous emplit de joie, hein, ces nouveautés. Alors, est-ce qu'il va falloir assister à l'événement pour vraiment en apprendre plus? Alors, on parlait tout à l'heure d'Amazon et sur le fait qu'il s'est allé un peu dans tous les domaines et on vient d'apprendre que Amazon va ouvrir, ou en tout cas est en train d'ouvrir, un salon de coiffure.
C'est des drones qui vendent coiffer?
C'est des... ou le chien Spot, comme on a l'habitude de citer. Alors, ils vont faire ça en grand, hein. Ça sera sur plus de 140 mètres carrés et... ils vont recruter des grandes pointures dans l'univers de la coiffure. Le petit plus, ça sera que vous serez entouré de nouvelles technologies.
Tu pourras commenter ta coupe à distance.
C'est ça, tu pourras changer la couleur de tes cheveux directement via la tablette. Et je pense qu'il n'y aura même plus de miroir, ça sera directement une tablette. Et tu pourras voir la qualité des produits que tu achètes directement avec un écran.
Ça, c'est pas plus mal hein, dans matière de la mode en général, que ça soit la coiffure, le maquillage. Hein. Avant de te faire la coiffure ou d'acheter la robe ou je ne sais quoi, si tu peux avoir une prévisualisation virtuelle dans un faux miroir de ce quoi tu vas ressembler, vaut mieux ça que d'être déçu après.
Surtout que si tu te bases sur la couleur de la photo des cheveux colorés qu'il y a sur la boîte, tu te fais souvent avoir. Quoi.
Des mauvaises expériences à partager, Renald ?
On va dire des paris que j'ai perdus un peu trop souvent.
Ceci explique cela. Donc, quelle sera la prochaine acquisition d'Amazon? Ils vont investir également dans les supermarchés, puisque tous les invendus, ils vont créer une sorte de boutique où vous allez pouvoir acheter tout cela en direct, sûrement à prix réduit. Ici, les salons de coiffure. Alors, peut-être demain, une boulangerie, une boucherie Amazon. Qui sait, je pense qu'ils sont partis pour conquérir le monde, un peu comme Google est en train de faire.
Et ils investissent aussi beaucoup dans les réseaux d'énergie, donc aussi bien électriques que d'autres systèmes, que d'autres sources d'énergie. Parce que ça aussi, hein, du coup, il y a l'argent à se faire. Et puis, comme ils ont des masses de données en stock, ils peuvent les utiliser pour optimiser au mieux, enfin, vraiment te donner les conseils pour optimiser au mieux ta consommation électrique. Donc attention, ils peuvent aussi...
C'est-à-dire un appareil que tu brancherais, que tu mettrais chez toi, un peu comme un Alexa qui te permettrait de faire des économies, et au passage un petit peu de t'espionner.
Aussi, ouais, c'est vrai.
Vu qu'on parle ici d'énergie renouvelable, Facebook a annoncé qu'il était actuellement alimenté 100% par des énergies vertes.
Il faudrait juste qu'ils expliquent que quand tu fabriques une éolienne, c'est peut-être des fois plus polluant que ce qu'elle va te faire économiser.
Enfin. Ça, c'est vrai. Après, ce qu'il faut peut-être juste dire, c'est qu'ils ont passé un abonnement pour que quelque part aux États-Unis, donc effectivement, il y a de la production à partir d'énergie verte. Après, l'électricité qu'il y a chez eux, comme ils ne savent pas trop d'où elle vient.
Et c'est un spécialiste qui nous en parle, attention.
C'est toujours mieux qu'un expert.
Et comme tu disais, Dominique, le coût d'une éolienne et puis le cycle de vie complet. Il faut faire très attention. On a fait un peu tout et n'importe quoi.
On relancera ce débat énergie verte dans une prochaine émission. Alors, vu qu'on parle de musique qui sont en train de révolutionner l'univers du rock ici, on va parler de Greta Van Fleet. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce groupe de rock?
Je suis pas sûr que le terme révolutionner est le bon.
Oui, je vois que
tu as détecté mon ironie.
Voilà.
Alors ici, on parle d'un groupe de jeunes qui nous vient du Michigan et qui s'est dit, tiens, si on faisait des nouvelles musiques, comme si on était un peu dans l'esprit de Led Zeppelin. Alors, ils ne font pas du Led Zeppelin cover, ils font un peu comme si Led Zeppelin continue à faire des albums, mine de rien.
Intéressant comme idée.
Ils reprennent tout, hein, de la musique jusqu'au style vestimentaire.
Il y a la voix du chanteur, et c'est ça le problème.
C'est pas un cover band, alors c'est un hommage band. Je sais pas comment on pourrait dire, c'est bizarre. Un legacy band. Voilà.
Pour vous faire tout de suite une idée, je vous propose d'écouter donc une chanson qui vient de leur nouvel album qui s'appelle The Battle at Garden's Gate et la chanson s'appelle Caravelle. êtes toujours sur Radio Campus 106,6 FM et DAB+, dans l'émission Heureusement en France. On écoutait du Greta Van Fleet et non pas du Led Zeppelin. La chanson s'appelait Caravelle et c'est un album que nous avons reçu puisqu'il est tout chaud. Il s'appelle The Battle at Garden's Gate. C'est vrai que ça sonne vachement Led Zeppelin pour le coup.
Et du coup, Dominique, oui, tu disais Legacy, mais c'est pas plutôt un classique, c'est-à-dire on revient au point de départ comme à l'origine
Ah, un reboot. Ah oui, mais ils font la suite. Ouais, ça, c'est pas assez compliqué. Un alternatif. c'est compliqué.
Et en fait, on s'apercevra dans quelques années que c'était juste une série Netflix qui était en cours de production. Ils se sont dit, tiens, on va faire semblant peut-être que c'est un vrai groupe.
Mais ils assument. Ils assument leur ensemble. C'est pas comme tous les groupes anglais qui sont sortis après les Beatles. On disait, ah, c'est les nouveaux Beatles. Ils disent, non, on fait des choses différentes. Alors que c'était exactement la même chose.
On aura d'ailleurs, j'ai un album de Paul McCartney qui attend sur la pile, qui date un peu, mais qu'on a, je pense, raté dans toutes ces découvertes musicales. Alors, on va continuer en faisant une petite référence à une dernière émission où nous avions parlé d'une association qui s'appelle La Remise en Jouet.
La Remise en Jouet. En Jouet, jeu de mots. Ils y récupèrent des jouets et qui les remettent en état, qui sont installés à Venise d'Ascq. Et ils récupèrent des jouets, en bon état ou pas. Ils les remettent en état quand ils peuvent et ils les revendent. Et ça permet de financer. En fait, c'est un chantier d'insertion derrière qui permet de développer des emplois. Ça marche de plus en plus. Peut-être parce qu'on en a parlé, je ne sais pas. On n'est pas les seuls. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se réunissent, par exemple des entreprises ou des associations, des administrations qui se réunissent et qui font, voilà, imaginons à Radio Campus, on dit, bah, si vous avez des jouets en trop, etc., on va les collecter, puis on ira les remettre. Ça marche. Il y a pas mal d'entreprises qui ont fait ça. Et ils ont récupéré plus d'une tonne de jouets depuis le temps.
Il y a d'ailleurs un site PrestaShop que vous pouvez consulter, donc shop.laremiseenjouets.org. Or, demandez à votre navigateur de recherche de taper juste la remise en jouets. Et ici, vous avez donc la possibilité de voir les divers jeux qui ont été remis en état et que vous pouvez acquérir. Et bien sûr, vous avez la possibilité également de faire un don.
Alors, on peut les contacter sur leur site pour savoir quand on peut passer, à quel endroit on peut venir déposer des jouets.
Donc voilà, et alors il y a des jouets, il y a même des jeux de société. Donc voilà, comme ils sont du coin, comme c'est une association.
Il y a des photos de leurs entrepôts qui se remplissent tellement, je pense qu'ils vont devoir agrandir bientôt.
Allez, je vous propose d'attaquer quelques news. Alors, on va quitter un peu l'univers ludique. On va partir dans du pur geek ici, en parlant notamment d'algorithmes. Quelles ne sont pas les plateformes qui n'utilisent pas un algorithme à l'heure d'aujourd'hui ? Alors c'est vrai que Facebook avait annoncé qu'il allait s'affranchir de son algorithme. Alors l'algorithme, on peut comparer ça à l'intelligence artificielle.
Il y a une intelligence artificielle derrière, et l'algorithme, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est celui qui, quand tu vas visiter un site, tu vas visiter, je sais pas, des sites marchands, ou tu fais des recherches sur Google, sur un moteur comme Google par exemple, comme par hasard, dans les jours qui viennent, dans tes suggestions, dans tes publicités, dans tes mails, tu vas recevoir des mails en rapport avec ce que tu as cherché la veille, comme par hasard. Et c'est l'algorithme qui a décidé de ça, qui juge, qui estime avec des critères plus ou moins changeants selon les entreprises et selon ce qu'on sait de toi, ce qui risque de t'intéresser potentiellement.
Pourquoi est-ce que Facebook a décidé de petit à petit se séparer de l'algorithme ? Tout simplement parce que plusieurs utilisateurs se sont plaints que justement, qu'est-ce que fait l'algorithme ? Il applique des filtres, donc il va filtrer votre contenu. Et les gens se sont dit, oui, mais moi, pourquoi je ne serais pas intéressé par un autre contenu ? Pourquoi est-ce que je vois toujours la même chose ? Alors que je voudrais plus ou moins diversifier les choses que je vois au lieu de voir tout le temps la même chose. Donc, suite à ces plaintes, ils ont décidé de laisser le choix aux utilisateurs de déterminer les modes d'affichage qu'ils voulaient avoir. Donc, vous pouvez, dans les options de Facebook, quitter un peu les filtres prédéfinis pour votre utilisation. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que vous... Alors, je sais qu'on n'est pas forcément des gros utilisateurs de Facebook, mais est-ce que vous préfériez tout voir ou avoir une sélection filtrée ?
C'est très compliqué. parce que tu sais que t'es espionné. De toute façon, moi, j'ai bloqué tous les accès. Enfin, il y a tellement d'options dans Facebook de confidentialité, tu peux régler ça comme tu veux. Mais même comme ça, que tu sais qu'ils t'espionnent d'une certaine façon. Ça peut être intéressant. Ouais, effectivement, moi, j'ai beaucoup de suggestions de jeux vidéo, de jeux de société, etc. Bah, ça tombe bien. Ça nous fait même des fois des news pour l'émission. À côté de quoi je passe? Je sais pas.
Eh ben, moi, je reçois que des notifications pour des albums de merde.
Ah, ben, voilà.
Mais si tu reçois tout ça, c'est aussi pour te pousser à acheter. Un peu l'achat de cœur, c'est de la consommation.
Et ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà vu des produits qui sont très intéressants et qui correspondent à des choses dont j'avais besoin et je les aurais peut-être jamais vus en faisant des recherches par moi-même. Enfin, j'avais fait des recherches par moi-même. Est-ce que je peux trouver un truc qui fait ci, qui fait ça pour l'ordinateur ou pour mon bureau, etc. J'ai jamais trouvé ou je tombais sur des trucs, ça m'a proposé. Et bah, Facebook, il est arrivé que Facebook, et oui, me propose des trucs qui fonctionnaient parfaitement.
Et t'as jamais eu d'achat coup de cœur justement en achetant des choses ou finalement
après, après c'est une question de volonté. T'as toujours oui c'est forcément c'est fait pour c'est normal c'est le tellement problème, bien
si, fait. Si tu as la volonté de ne pas enfin je veux dire c'est à la tentation tant mieux mais c'est pas le cas de tout le monde et après ça peut créer un peu bah, des
exactement sociaux, des addictions
des gens parfois voilà des addictions des gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas prennent des emprunts et bah ça te conduit à des drames.
Après, tu peux t'amuser avec l'algorithme, tu peux faire exprès de faire des recherches sur des sujets qui ne te concernent absolument pas, qui n'intéressent pas, et pour voir justement, essayer de manipuler l'algorithme à ta façon.
Ouais, il faut avoir du temps à perdre après.
Exactement. Bah, t'as Internet, quoi.
Ouais, le plus rigolo, c'est de le faire sur les pages Facebook de tes collègues.
Exactement.
Qui partent à leur poste café ou clope, alors que, bon, ils laissent traîner leur ordinateur allumé.
Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'algorithme? C'est notamment à propos de Twitter. Alors, c'est vrai que Twitter l'a eu un peu dur ces derniers mois. Alors, premièrement, les accusations sur leur participation à l'attaque du Capitole en mettant en valeur des tweets, notamment ceux de Donald Trump.
On leur reproche de jouer la facilité.
Ils ont décidé d'être transparents, comme tu le dis, Dominique, et de revoir leur copie sur certains agissements de l'algorithme. Ils vont lancer une initiative qu'ils ont baptisée The Responsible Machine Learning Initiative. Donc, une initiative qui permettra à l'intelligence artificielle d'apprendre de façon responsable. Alors, c'est un grand mot, hein, puisqu'on se dit, mais ce n'était pas prévu dès le départ. Donc, ils ont regroupé des ingénieurs, des chercheurs, des data scientists pour éviter que ces dommages collatéraux apparaissent à nouveau.
Il était temps, parce qu'on imagine que dans des boîtes comme ça, c'est le genre de boulot qu'on refile aux stagiaires, tu vois. Donc, c'est sûrement des mecs à peine sortis de leurs études, qui connaissaient rien de la vie, à qui on demande d'apprendre un algorithme, de trouver des informations et de partager des informations. Autant qu'on fait ça à des gens qui ont un peu plus d'expérience ou de recul, quoi. Pourquoi ils n'ont pas fait ça depuis le début?
Donc, au lieu de faire comme Facebook, qui donne le choix de plus utiliser, eux disent non, on va être transparent, on va vous dire, voilà, qu'est-ce qui se passe exactement derrière les choix de l'intelligence artificielle et vous inquiétez pas, de toute façon elle va être bientôt responsable donc tout ira bien.
Ouais, j'ai quand même du mal à voir comment ils pourront informer les gens de tout ça en fait.
Qui va aller voir, qui va aller vérifier c'est...
Je pense que personne n'ira lire ou alors seulement 1% de la population enfin, ça va être tellement
qu'est-ce
complexe,
qui nous dit que ce qu'ils affichent c'est réel ou enfin, on sait pas quoi.
Je pense que leur premier point d'attaque sera notamment sur l'équité des recommandations que vous allez avoir sur votre fil d'actualité. Et là, vous n'aurez pas 50 personnes qui veulent attaquer le Capitole et qui vous invitent à les rejoindre.
C'est un des nombreux reproches qu'on fait à Facebook et même à tous les algorithmes, en fait. C'est qu'on en a beaucoup parlé au moment des Gilets jaunes en France. Parce qu'en fait, les Gilets jaunes créent des groupes Facebook ou des discussions sur Facebook pour parler entre eux. Le problème, c'est qu'ils étaient entre eux de base et toutes les autres informations, les autres théories, enfin, ce qui pouvait combattre les complots, étaient complètement bloqués. Donc, eux, ils n'y avaient pas accès, on ne leur proposait pas. Alors que toi, quand tu étais neutre, quand tu vas chercher des infos pour la première fois, tu as toutes les voies, en fait, tous les choix possibles. C'est-à-dire que quand tu es déjà dans un mouvement, déjà dans un groupe, on ne te propose que ce qui va renforcer tes convictions. C'est un des gros problèmes.
Voilà, mais maintenant, tu seras au courant que tes convictions sont un peu manipulées.
Ou qu'il y a d'autres convictions, on va peut-être pas, tu iras peut-être pas les voir, mais au moins tu sais qu'il y a d'autres voies qui existent.
Alors, encore un peu de musique, puisqu'on a beaucoup d'albums à écouter. On va partir dans un style de rock et de blues avec Peter Frampton, qui est dans l'univers musical quand même depuis un bon moment.
Ça nous rajeunit pas, oui.
Effectivement, mais il continue, malgré ses derniers problèmes de santé, à faire des albums et également lui innove Hein. Alors lui, marque direct, hein, je fais de la cover classique. Je les reprends à ma manière, donc généralement, je refais la voix avec une guitare. Je vous propose d'écouter, comme ça on se fait tout de suite un avis, Peter Frampton Band avec Isn't It a Pity.
Je me demande s'il a encore sa talkbox, parce qu'il était connu pour ça à l'époque. Il avait une espèce d'appareil avec un tuyau qui se mettait dans la bouche, et quand tu parlais dedans, ça transformait la voix. C'était l'ancêtre du vocodeur, c'était encore analogique.
C'était Isn't It a Pity, une cover de George Harrison réalisée par Peter Frampton Band. Encore une fois, ici, on ne sort pas des sentiers battus.
Ça sur cette reprise.
Alors, dans l'album, il y aura une ou deux chansons où il va chanter. Mais alors, l'album s'appelle Frampton Forgets the Words. Donc, il oublie
ça
les mots.
Bien. Bah oui, il ne peut pas chanter, du coup.
C'est voilà, pour ça, je comprends mieux aussi.
La bonne excuse.
C'est peut-être alors, parce que ses soucis de santé lui ont coupé la voix, ce qui est pas arrivé.
Tu veux dire que ça sera un peu comme Tony Bennett qui, souffrant d'Alzheimer, va faire un duo avec Lady Gaga?
Alors lui, il a vraiment oublié les mots, par contre. Non, je plaisante.
On verra, j'attends toujours cet album, hein, puisque j'ai des alertes sur certains fils d'actualité, et ceci en fait partie. Donc, dès qu'on aura l'album de Tony Bennett, vous serez les premiers à être au courant grâce à notre émission Heureusement en France. Donc, restez branchés tous les dimanches de 18h à 19h sur Radio Campus. On enchaîne toujours dans l'actualité geek. Alors, cette fois-ci, on va parler un peu de hacking avec Nintendo.
On n'en parlait pas déjà avec les algorithmes ?
C'est pas faux. Alors là, on n'a que pas votre vie privée. Là, on n'a que les gros constructeurs et notamment Nintendo qui aura l'habitude hein, de se faire pirater ses consoles et ses jeux. Mais on dirait que cette fois-ci, ils en ont marre et ils sont partis en guerre. Et notamment chez Nintendo of America, qui a attaqué en justice. Alors ici, il y a une part d'ironie. Hein. Ils ont attaqué en justice Bowser. Alors Bowser, c'est le grand méchant des jeux Nintendo. Une sorte de grosse tortue avec des pointes. Alors le hacker faisait partie donc, de la team Exécuteur qui a notamment donc piraté les puces, alors ce qu'on appelle un peu les mods chip, et qui les ont derrière revendus. Du coup,
c'est marrant parce que ça, depuis qu'il y a des consoles, je m'entendais parler de puces et de mods, etc. C'est marrant. T'avais toujours, quand t'étais à l'école, un pote qui connaissait un gars qui savait faire les modifications de console.
C'est ça, il y a des gens qui attendaient que la console soit hackée pour justement l'acheter. Sauf que généralement, lorsque les hacks sont découverts, les premiers au courant sont bien sûr Nintendo, donc ils vont tout de suite dans les usines de production pour dire « Attendez, on corrige la faille et on continue à sortir. » C'est pour ça que vous avez différentes versions de consoles. Donc vous devez acheter une console d'ancienne génération. Alors on avait pu voir ça avec la Wii, il fallait avoir un certain jeu, faire une certaine manipulation sur le jeu pour ouvrir une faille de sécurité et ensuite hacker avec un petit programme, enfin, c'est toujours une aventure.
Le but c'était soit de jouer avec des jeux pirates, c'est-à-dire que tu mettais un disque dur ou une carte SD, tu avais tous les jeux donc piratés, etc. Ça c'était un peu embêtant pour les consoles, mais là où c'était pas les modes les moins embêtants, c'est les modes qui permettaient de faire marcher les jeux de toutes les origines. Par exemple, une console française pouvait pas tourner les jeux japonais et inversement. Là, avec ta console, tu pouvais faire tourner les jeux américains, français, japonais, ce qui était moins gênant pour le développeur puisque tu achetais le jeu quand même au final.
Nintendo réclame des dommages et intérêts de $2,500. Attention, pour chaque unité hackée et modifiée. Donc, vous imaginez bien que derrière, on va être sur des milliards. Et à $150,000 pour les violations répétées de copyright.
On peut dire Cocorico parce qu'il y a un Français dans parmi les têtes pensantes du groupe de pirates.
Et aujourd'hui, Dominique, en ayant du coup sa console connectée en permanence à Internet, pratiquement, ça n'empêche pas justement...
Il y a toujours des moyens de contourner. Il me semble que les dernières consoles de dernière génération sont très difficilement hackables, mais bon.
Tu prends par exemple la première Wii, tu n'avais pas besoin d'être sur le réseau. La deuxième, la Wii U, effectivement, elle faisait une authentification sur des serveurs de Nintendo. Sauf que des hackers se sont mis à créer des propres serveurs et router donc la connexion.
Il y a sûrement moyen de faire.
Depuis que tu pouvais le créer,
VPN et compagnie.
Tu sais, quand j'ai vu l'article justement sur Nintendo qui attaquait en justice, j'ai cru que c'était un poisson d'avril qui était largement en retard parce que la team de hackers s'appelle Exécuteur, je prononce correctement le nom de la team, je pense, et la personne dont on parle s'appelle vraiment Bowser, mais son de prénom Gary, et la personne qui est en charge de Nintendo Amérique s'appelle Doug Bowser. Donc, tu as Bowser qui attaque Bowser en justice.
C'est un critère de recrutement aussi.
C'est pas possible, c'est un poisson d'avril. Et non, effectivement...
Et, quelquefois, les hackers hackent des hackers. Là, c'est pas Bowser contre Bowser, c'est les hackers contre les hackers. Puisqu'un forum de pirates a été hacké. Qui est quand même assez insolite.
C'est aussi une compétition, j'imagine, entre groupes de hackers, en fait. C'est pour montrer qui est le plus fort.
Ah, sûrement.
Est-ce qu'ils sont des gentils hackers ou parce qu'il y a les hackers qui sont engagés par les grosses sociétés pour contrer les hackers?
Alors, généralement, hacker, ça ne veut pas dire on a fait maintenant tomber le site ou pas. Généralement, c'est de s'infiltrer sans être repéré et de récupérer le maximum de données possibles, qui arrivent souvent sur des gros sites, tels que Facebook, Twitter, Amazon ou autres, qui se font aspirer des comptes utilisateurs avec les mots de passe, avec les coordonnées bancaires. Et là, ça commence à poser problème. Alors ici, c'est Crading Mafia, un forum qui apparemment est spécialisé dans l'échange de cartes crédit volées. Alors on est quand même dans le hacking.
C'est plus du hacking gentil, hacking. Là.
Ouais. On est dans la bande organisée bientôt ici. Hein. Et ils ont plus de 500 000 utilisateurs. Et selon les statistiques qu'on a pu récupérer, il y aurait plus de 600 000 messages qui ont fuité, 130 000 discussions et 980 gigas de données qui ont été comme ça.
On pourrait très bien imaginer que c'est des hackers gouvernementaux travaillant pour la police qui ont hacké ce site, parce que à ce niveau-là d'échange de cartes de crédit, on se dit que c'est pas fait pour acheter la baguette à la boulangerie du coin, c'est pour acheter sans doute de la drogue ou des armes ou ce genre de choses.
Alors comment est-ce qu'on sait qu'on s'est fait hacker? Il y a des sites, alors notamment celui-là qui s'appelle Have I Been Pwned. Alors Pwned, c'est P-W-N-E-D. C'est des sites, vous mettez un peu votre adresse email ou votre adresse IP et on vous indique si vous apparaissez sur des bases de données de hackers, puisque les hackers, une fois qu'ils téléchargent, rediffusent ça ou revendent les informations.
Et si donc, c'est le cas, il faut très vite aller changer son mot de passe.
C'est ça, mais généralement, au bout d'un moment, vaut mieux toujours changer son mot de passe plutôt qu'aller voir Have I Been Pwned tous les deux jours.
Tu peux nous donner ton adresse IP, François, pour qu'on voit si tu as été hacké et aussi, du coup, peut-être...
Mais elle est sur le site de Radio Campus, donc je vous invite à aller explorer le site de Radio Campus pour chercher nos informations personnelles.
Si tu veux récupérer des noms de cartes de crédit ou des informations comme ça, j'ai vu j'ai vu, quand on parlait de Facebook tout à l'heure, des images très sympas de gens qui mettent des trolls, en fait, qui mettent des messages sur Facebook ou Twitter, etc., ou sur des forums, en général vers un public pas forcément averti, qui disent hey, si tu avais autant d'argent que ton numéro de sécurité sociale, combien est-ce que tu aurais d'argent? Et là, tu as plein de gens qui réfléchissent pas et qui mettent leur numéro de ah, j'aurais 1 450 000, je sais pas, n'importe quoi, un chiffre, dollars. Et donc, les gens mettent en clair leur numéro de sécurité sociale, ce qui, aux États-Unis, te permet très facilement, en France, je sais pas trop, de hacker la personne, de voler l'identité d'une personne, parce que le numéro de carte de sécurité sociale, là-bas, est très important. Il y en a qui ont fait pareil avec le numéro de carte de crédit, tout, enfin, c'est très amusant.
Faut être très fréquent, quand même.
Écoutez, si tu passes ta journée sur Facebook et que t'es fatigué au bout d'un moment, tu réfléchis plus, quoi. Tu vois plein de gens qui répondent, tu dis, allez hop, je me mets là au lot.
Le hack qui fonctionne le mieux, ça reste le phishing, où vous allez cliquer sur des mails de contrefaçon.
Qui sont de plus en plus, de mieux en mieux faits, oui.
On déguise un peu l'URL. On déguise l'URL, ce qui vous mène sur un autre site et vous pensez toujours être sur le bon site. Donc vous retapez bêtement vous identifiant. Et à partir de là, vous avez ouvert la porte parce que vous faites peut-être partie des gens qui mettent le même mot de passe partout. Alors, il ne nous reste plus que pour un simple hacker d'utiliser un mail et ce mot de passe sur plein de sites et voir où est-ce que ça répond. Même les plus grandes sociétés, hein, quand on voit combien Facebook dépense juste pour la sécurité de Mark Zuckerberg, voilà, on se dit que personne n'est à l'abri malheureusement.
Et puis en même temps, pour les hackers, c'est une cible de choix.
C'est une cible de choix, puis c'est un peu le Saint Graal, quoi. Hein. Mm-hmm. On te dit, j'ai hacké Mark, allez, tu revends même pas les infos, tu t'en vantes, tu prends un screenshot, puis ça fait de toi, tu gagnes des points d'XP dans le domaine. Je vous propose de se quitter en musique. On reçoit quelques courriers d'auditeurs qui nous demandent quand est-ce qu'on réécoutera du Gigi Anderson. Et je sais que Pierre-Yves est également un grand fan.
Attends, mais c'est toi qui écris les courriers, c'est pas possible.
Et bonne nouvelle, puisque Gigi Anderson va offrir un grand cadeau à tous ses fans tels que nous, un double album qui s'appellera Das Best.
Laisse-moi deviner, c'est pas des nouveautés alors.
Mais si, ce sont 40 de ses plus grands succès qui seront disponibles sur cet album de best-of avec 14 nouveaux enregistrements.
Pas 14 nouvelles chansons. 14 non. Nouvelles chansons.
C'est des réinterprétations.
Das Best. C'est pour qu'il ne sort pas sans vinyle. Oh.
Oh bah écoute, il n'est pas dans la death list, lui, au fait, non?
Bon, bah, j'espère pas, non.
Alors... Il y a même une version de luxe où il y a 100 de ses meilleurs hits sur 5 CD. Pas celle-là, il nous la faut.
Alors, un appel aux auditeurs. Vous avez des vinyles? Vous en avez un de Gigi Anderson qui traîne? On serait ravis de le diffuser sur les ondes de Radio Campus. Alors, je vous propose, parce que je sens que ce titre plaira à Dom, nous allons nous quitter avec Mama Lorraine. Alors, attention avec l'accent un peu anglais, Mama Lorraine. Très important.
Allemand, tu veux dire? Est-ce qu'il a une nostalgie du temps où Lorraine était allemande? Je ne sais pas.
Et pour le coup, c'est du grand Gigi Anderson. Il n'a pas besoin de se renouveler. Alors,
surtout pas qu'il se renouvelle.
Alors, ce qui est bien avec Gigi Anderson, c'est qu'il va pouvoir reprendre les concerts très prochainement, puisque 98% de ses fans sont déjà vaccinés. Donc, il reste que nous. Nous, on en est sûrement dans les 2% qui restent.
Bon, là, tu gâches du temps d'antenne de Gigi Anderson, là, nos auditeurs.
Mais que je coupe au montage, vous inquiétez pas. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
Bonne soirée à tous.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
So long.